capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait...
Moi, c'est André Dumbuima, au Katanga oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Parole aux auditeurs. La rentrée parlementaire intervient ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette session de septembre s'ouvre sur fond des pétitions initiées par les députés et sénateurs contre les présidents des deux chambres du Parlement. Si cette session est essentiellement budgétaire, il n'en reste pas moins que la guerre dans l'est du pays et le banditisme urbain dans certaines villes de la RDC constituent une préoccupation majeure sur laquelle devraient se pencher députés et sénateurs. À cela s'ajoutent les revendications des enseignants, des médecins et infirmiers, sans oublier la problématique de la mobilité dans certaines villes de la RDC avec des embouteillages interminables. À part le budget exercice 2026, quelles devraient être les autres priorités de cette session de septembre 2025? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099-706-80-79. 099-706-80-79. Depsevita est à la mise en onde de ce magazine et Billy Landry Betou assure les lives de cette émission et Julie Feza Bongonda en assure la réalisation et la coordination à la présentation Guy Mati.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Paroles aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois de plus, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs. Merci à vous tous qui ont déjà qui réagissaient plutôt sur la page Facebook et aussi qui se sont fait inscrire pour réagir. Nous parlons aujourd'hui des priorités de la session de septembre qui s'ouvre ce lundi 15 septembre sur fond des tensions à la suite des pétitions initiées par certains parlementaires contre les présidents des deux chambres du Parlement. Et pour échanger sur ces sujets, nous recevons en ligne Willy Michiki Bouini, il est député national élu de Walikale au Nord Kivu, il est cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonjour, honorable Willy Michiki Bouini.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour aussi aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Honorable Willy Michiki, d'abord, le chef de l'État a exhorté, il y a de cela une semaine, a exhorté les deux présidents des deux chambres du Parlement à assurer une rentrée parlementaire apaisée. Mais avec vous, les pétitions que vous maintenez et dont vous êtes un des signataires, vous ne pensez pas que vous allez, n'est-ce pas, vous opposer à cette volonté du chef de l'État de voir la rentrée parlementaire s'effectuer de manière apaisée?
Oui, d'abord, je voudrais apporter une précision que je ne suis pas signateur ni de la pétition contre certains membres du bureau, ni de la motion soutenant les collègues Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau ou les institutions. Je suis le médiateur qui est toujours prôné pour la stabilité de notre institution, et je crois fermement que nous avons une famille politique qui s'appelle l'Union sacrée, où nous pouvons régler nos différends, évidemment, sous la conduite et la vision de la haute autorité politique qui est le chef de l'État.
Voilà,
je pense que cette session,
allez-y,
qui est une session essentiellement budgétaire, a comme priorité aujourd'hui d'abord l'adoption du projet de loi de finances, donc du budget 2026, Nous devons aussi faire face aux défis sécuritaires de la partie orientale du pays, notamment aussi la stabilité institutionnelle et plus particulièrement recréer la confiance entre les élus nationaux et leurs bureaux, mais aussi renforcer l'unité nationale, gage de la réussite de la lutte contre l'agression étrangère.
Honorable.
Oui.
Vous avez précisé que vous n'êtes pas parmi les signataires, n'est-ce pas, de ces pétitions, de ces deux pétitions, donc l'une à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre, parce qu'on sait que les pétitions ont été maintenues, hein, en dépit de l'appel chef de l'État demandant aux deux présidents d'assurer une rentrée parlementaire apaisée, les deux pétitions sont maintenues et leurs initiateurs apparemment sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur logique. Et vous ne pensez pas que cette question des pétitions puisse éclipser des questions importantes comme celle de la guerre, comme celle du budget que vous venez d'évoquer?
Oui, tout à fait. Toute perturbation de fonctionnement de ces deux institutions importantes, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, aura comme répercussion sur la sécurité du pays, mais aussi sur le bon fonctionnement de ces deux institutions. Surtout dans cette session, qui est une session essentiellement budgétaire, le peuple attend son budget, nous avons des défis à relever, et toute instabilité ne peut pas servir le pays dans le contexte actuel. Mais il faudrait aussi préciser que l'exercice parlementaire dont le parlementaire a un mandat non impératif, ne peut pas aujourd'hui permettre à une autre institution de se gérer dans le fonctionnement de nos deux institutions. Comme vous le savez très bien, conformément à l'article 32 et 33 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lorsqu'une motion est déclenchée contre le président du bureau, par exemple, il faut réunir un quart de signature, donc 125. Aujourd'hui, les collègues pétitionnaires ont dépassé la barre des un quart. Et pour certains membres du bureau, il faut seulement 10% de membres, donc 50 signatures pour l'Assemblée nationale. Et mutatis pour le Sénat. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est nous avons demander aux collègues pétitionnaires, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, nous leur avons demandé de ne pas déposer ces pétitions. Pourquoi? Puisque si ces pétitions sont déposées dans ce contexte, nous risquons de retarder l'adoption du budget et même perturber le fonctionnement des institutions. Et je demande toujours aux uns et aux autres de ne pas mêler le chef de l'État dans cet exercice parlementaire. Le chef de l'État n'y est pour rien. S'il y a des questions à régler, nous devons les régler plutôt au niveau de notre famille politique de l'Union sacrée, puisque ces tickets des deux bureaux sont des tickets de l'Union sacrée.
Voilà. On met la parenthèse sur cette question des pétitions. Au-delà de cela, il y a toutes ces revendications sociales. Hein. Honorable Willy Meshiki, on vous accuse, vous parlementaires, de vous intéresser beaucoup plus sur des questions relatives à vos émoluments et jamais sur les revendications sociales. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, pendant cette session de septembre 2025, les revendications des enseignants, des policiers, les revendications des médecins, infirmiers et des autres catégories, n'est-ce pas, des agents de l'administration publique seront prises en charge par les parlementaires?
Oui, effectivement, l'opinion n'est pas suffisamment informée des travaux parlementaires que nous réalisons. On donne naïvement l'impression que les députés travaillent pour son propre ventre ou les sénateurs. Non, ce n'est pas question. Lorsque vous regardez, par exemple, la production parlementaire de la session du mois de mars, vous allez constater que c'était vraiment une des sessions où les députés comme les sénateurs ont fait beaucoup de choses. Mais la difficulté que nous avons toujours rencontrée, c'est au niveau de l'exécutif. Il y a beaucoup d'impératifs politiques jusqu'à traiter lorsque certains collègues députés nationaux comme sénateurs, des racketteurs, lorsqu'ils exercent leur mandataire, notamment le contrôle parlementaire, qui est un des pouvoirs constitutionnels des députés et des sénateurs. Et ça, ça pose parfois des difficultés, puisque on donne l'impression que puisque le gouvernement est issu de la majorité, alors il faut fermer les yeux sur certains abus, certains détournements, et ça, nous l'acceptons pas. C'est d'ailleurs une des raisons aujourd'hui qui pousse certains députés à initier de pétitions, puisque même les membres des bureaux sont parfois aujourd'hui soumis à certains impératifs politiques pour couvrir certaines mauvaises gestions de membres de l'exécutif. Et ça, nous le déplorons amèrement. Moi-même, j'ai eu à me battre plusieurs fois contre notre bureau pour empêcher certains actes de contrôle parlementaire. Nous avons initié des propositions de loi qui n'ont jamais été soumises au débat. Et ça, ça pose réellement des problèmes. Et finalement, c'est nous qui paraissons mal vus vis-à-vis de l'opinion, alors que nous sommes l'émanation de la population. C'est comme ça que vous avez constaté qu'à chaque législature, il y a moins de 20 à 25% de élus qui reviennent, puisque nous sommes victimes de cette négligence ou de cette complicité politique au sommet de l'État qui nous empêche de pouvoir exercer le contrôle parlementaire tel qu'est attendu par les constituants.
Voilà, nous quittons le terrain des revendications sociales pour celui, n'est-ce pas, de l'insécurité. Honorable Louis Michiki, quel pourrait être l'apport des parlementaires dans les processus dans lesquels la République est engagée, notamment celui de Washington et celui de Doha?
Bon, c'est vrai que jusque-là, l'institution parlement n'a pas été impliquée dans les négociations. C'est une compétence exclusive de l'exécutif. Mais nous avons toujours demandé à nos amis de l'exécutif de pouvoir associer en amont comme en aval le venu du peuple. Nous avons beaucoup d'informations. Comme vous le savez, au Parlement, vous trouvez les anciens ministres, les anciens mandataires, les anciens diplomates. Donc, nous sommes vraiment une source aujourd'hui des connaissances, des contacts qui pourraient accompagner le gouvernement. Lorsque nous parlons du terrain, par exemple, nous avons même des élus du peuple qui aujourd'hui sont mieux écoutés par les Wazalendo, qui jouent un rôle important. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, en réalité, sur le front militaire, la première ligne de front, ce sont les Wazalendo qui sont là, les VDP. Mais les VDP qui étaient prévus dans l'accord, dans le processus de Nairobi, ont été exclus. Comment conclure un cessez-le-feu aujourd'hui sans impliquer les VDP, par exemple? C'est impossible. Et c'est comme ça que vous voyez que ce processus patauge. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire un deal avec le M23 et AFC pour la libération des détenus politiques. Mais on oublie aussi qu'il y a des détenus arrêtés de VDP Wazalendo qui croupissent des années en prison pour avoir seulement fait face à l'agression, pour avoir empêché l'ennemi. Vous savez que les VDP sont là depuis presque 3 décennies et ils ont réussi à résister et aucun centimètre carré du pays n'est jamais tombé entre les mains des agresseurs. Mais aujourd'hui, maintenant, cela crée une sorte de frustration qui risque même d'embraser cette région-là, puisque lorsque les VDP, qui sont l'émanation de la population, ne sont pas impliqués, et ça pose un problème. Et c'est ça que nous dénonçons auprès de l'exécutif qui n'associe pas le zélé du peuple alors qu'il prétend être notre émanation.
Voilà, et avant de donner la parole aux auditeurs qui sont déjà nombreux en train de vouloir intervenir, nous allons parler de cette question des mobilités, hein, de certaines villes de la RDC. Quand on voit comment la population souffre, n'est-ce pas, dans cette ville de Kinshasa, et aussi Bukavu, Matadi, dans beaucoup de villes de la RDC, on a l'impression que les décideurs sont à bout. Hein, c'est comme si les décideurs n'ont plus des solutions à proposer pour mettre fin à ces embouteillages interminables. Honorable Willy Mushiki, vous ne pensez pas qu'il faille, pendant cette session de septembre, interpeller l'exécutif pour, par rapport à cette question des embouteillages?
Je pense que l'erreur aussi que nous constatons au niveau des embouteillages, c'est le fait que nous avons comme impression que notre gouvernement ne fait pas beaucoup d'efforts pour répondre à cette question-là.
Justement, c'est pourquoi vous devez l'interpeller.
Vous savez, aujourd'hui, la ville de Kinshasa a une population de 7 millions. Vous êtes, au moment où je vous parle, je suis au Brésil. Un pays qui a près de 220 millions d'habitants. Vous allez de villes comme Sao Paulo qui ont plus de 30, 50 millions d'habitants. Mais vous n'allez même pas voir d'embouteillage ici. Donc c'est une question d'organisation. Et moi je me dis, on ne peut pas inventer la roue au 21e siècle. Venez ici, dans ce pays peuplé, pour voir comment aller en Chine. Est-ce que vous allez voir des embouteillages en Chine, monstres qu'on voit comme ça chez nous? Nous pouvons trouver des solutions. C'est question de volonté politique. Nous avons aujourd'hui... Nous devons comprendre que la ville de Kinshasa, telle qu'elle était conçue à l'indépendance, ce qu'on appelait même la commune de Kalima, là par exemple, ce n'est plus le, mais tout le monde est concentré autour de la Gombe. Alors qu'il y a, seulement si l'ensemble, le 9900 km² de Kinshasa aujourd'hui, seulement 10% est occupé. Mais on laisse des autres espaces vides complètement. Alors, moi, je propose aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il faut même, ils peuvent m'envisager même de déplacer même l'administration, par exemple, on l'amène à Maluku. Comme ça, on veut pousser les gens à aller vers Maluku, à aller vers Kinkole, par exemple, où il y a encore des espaces. C'est inadmissible que les gens se concentrent autour toujours des anciennes administrations. Ce sont des choix politiques parfois honorable. Difficiles que nous devons lever pour faire face aux embouteillages et monstres que nous constatons aujourd'hui.
Voilà.
Nous devons aujourd'hui aussi casser tous ces bidonvilles. Lorsque vous regardez toutes ces routes-là aujourd'hui, ce sont des routes qui sont envahies. Il y a les désordres des véhicules de vieux de 50 ans, 60 ans. On les envoie chez nous. Il faut réglementer, par exemple, de dire que, comme dans d'autres pays, un véhicule de plus de 5 ans ne peut pas entrer au pays. Puisque c'est tout ce qu'on jette partout, on les amène chez nous. Nous n'avons qu'une seule route. Hein. On a des routes limitées et ça pose un problème. Je salue aujourd'hui, par exemple, le lancement de la reprise des trafics ferroviaires entre Kinshasa et Matadi. Nous devons aussi aujourd'hui et reprendre aussi. On a eu le projet Metrokin, par exemple, qui devrait désengroger avec la reprise, par exemple, de la voie ferrée dans la ville de Kinshasa. Mais il y a des gens, aujourd'hui même, je vis comme vers GB là-bas, où les gens construisent et sur des rails et on les lève puisque
honorable.
Il est tel ou tel.
Oui, c'est bien beau de développer des réflexions sur cette question, mais est-ce que vous promettez la population que pendant cette session de septembre 2025, vous allez prendre des initiatives, vous allez entreprendre des actions, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, d'apporter des solutions à cette problématique des embouteillages?
Oui, je voudrais rassurer ici les auditeurs et les auditeurs de la radio Capi que notre bureau de l'Assemblée nationale avait déjà anticipé en mettant en place une commission ad hoc de salubrité dont j'ai fait partie membre. Et notre président qui est aujourd'hui en cavale et les collègues Matata Mpogno, secondé par les collègues Bemba et Madame Bemba et l'honorable Bemba et puis l'honorable Bokele Adrien, avait déjà commencé le travail. Nous étions descendus même sur le terrain. On a même fait des recommandations qui, malheureusement, n'ont pas été prises en compte jusqu'à aujourd'hui par les mêmes gouvernements auxquels vous faites allusion aujourd'hui. C'est
Merci.
Ça qui pose des problèmes.
Merci.
Nous ne voulons pas aujourd'hui amener les gens à se révolter contre le gouvernement, mais nous disons au gouvernement qu'il faudrait que ces recommandations-là de la commission ad hoc des salubrités soient prises en compte. Aucune recommandation n'a été prise en compte jusqu'à aujourd'hui.
Merci.
Alors que nous sommes en train de chercher des solutions, nous pensons qu'à la rentrée parlementaire, ça sera une des priorités de l'Assemblée nationale comme dit Sénat.
Merci, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Radio Capi, vous suivez en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, le magazine Parole aux auditeurs. Hein. Nous parlons aujourd'hui des priorités de la session de septembre qui s'ouvre ce lundi 15 septembre sur fond des tensions à la suite des pétitions initiées par certains parlementaires contre le président des deux chambres du Parlement. Et on en parle avec notre invité Willy Michiki Bouini. Il est député national élu de Walika, le Nord Kivu. Il est cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 09 906 80 79. Et nous allons à présent ouvrir notre standard après cette virgule.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons déjà en ligne plusieurs auditeurs qui sont en train de vouloir intervenir. Et là, nous allons à Vienne, en Autriche, avec Franck. Franck, bonjour.
Bonjour à vous tous au studio, Monsieur Guy. Bonjour aussi à l'invité, l'honorable Willy Michiki, qui est avec nous en ligne.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. Au regard de tout ce qui se passe, se schématise autour de cette rentrée parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. Personnellement, moi, si je dois me prononcer ou je dois me permettre d'analyser, je trouve que ça ne peut pas nous étonner de voir qu'il y a un peu une ambiance de tension, de secousse, avec des motions, avec des menaces de destitution. Parce que tout ce qui se passe là, tout ce que nous sommes en train de constater, c'est exactement le reflet de la mentalité politique de nos leaders congolais. C'est le reflet de notre esprit, de ce que nous sommes. Personnellement, je peux dire que ailleurs, les alliances politiques se fondent sur base de projets de société, sur base de préoccupations citoyennes. Et quand deux partis, deux regroupements politiques se décident de se mettre ensemble, c'est en vue d'abord de chercher à servir le même peuple. Mais est-ce que c'est aussi le but des différents regroupements politiques de chez nous? Parce que chez nous, on ne se met pas ensemble pour servir le peuple, mais on se met d'abord ensemble pour se servir. Et on se met ensemble pour se servir au nom des personnalités, au nom des égaux. Donc on ne sert pas le peuple, mais on sert les individus. Et dès lors que celui qui a peut-être plus de force ou plus d'influence sur les autres se rend compte que ces desiderata ne seront plus convenablement en ordre, il peut chercher soit à perturber, à bouleverser ou à se charger des figures de proue dans divers états-majors politiques. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous. C'est comme ça que parfois il faut parler de manière métaphorique, qu'on ne peut pas chercher à récolter du maïs là où vous n'avez semé que des haricots. Donc, nous savons déjà que chez nous, dans la plupart des cas, toutes ces rentrées parlementaires de septembre, essentiellement budgétaires, sont parfois réorientées pour d'autres buts. Et les budgets qu'on pourrait voter là, ça risquerait de ne même pas servir aux préoccupations du peuple. Ça va seulement servir pour faire fonctionner quelques institutions pour les salaires de ceux qui sont au niveau de ces institutions, mais les citoyens de la basse, de la classe moyenne, ceux qui sont au niveau, qui n'ont rien à faire avec la politique active, on ne tient même pas compte de leurs desiderata. Et avec ce que nous sommes en train de voir, tel que les choses se passent chez nous, personnellement, je suis en train de me demander si même nos honorables députés sont contents de se retrouver dans toutes ces situations. Eux-mêmes, maintenant, commencent à se plaindre. Ils n'ont pas accès à leurs soins médicaux. Ils n'ont pas ceci. Mais je crois que nous devons aussi leur rappeler. Honorables députés, ne voyez pas seulement ce qui manque chez vous. Mettez-vous aussi à la place de ce peuple auprès de qui vous allez chercher ces suffrages-là pour vous retrouver au Parlement. Si vous n'avez pas accès aux soins médicaux, dites-vous que le peuple également n'en a pas. Si vous êtes en retard de vos émoluments, les peuples aussi, il y en a qui ont des retards de 20 mois, de 30 mois. Alors, au lieu de plaider seulement, de réclamer seulement vos propres avantages, il serait mieux de réclamer aussi les avantages de tout le monde. Comme ça, il y aura de justice, il y aura équité au niveau du traitement parce que nous sommes tous citoyens congolais.
Merci.
Mais sinon, on risquerait encore de refaire des surplaces. On va changer tel pour les remplacer par tel, mais finalement, il faut se demander si le peuple qui est le souverain primaire se retrouverait dans tout ce qui se bouscule là au niveau de nos deux chambres parlementaires.
Merci Franck. Je rappelle que vous appelez depuis la ville de Vienne en Autriche. Et nous allons maintenant à Bukavu Sud-Kivu avec Amos Bissimwa. Amos Bissimwa, bonjour.
Bonjour Guy Maté, bonjour à l'invité, l'honorable Mishiki. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Allez-y Amos.
En analysant tout ce qu'on est en train de suivre juste à l'ouverture de cette session parlementaire, les pétitions, motions et autres, il y a beaucoup de questions que l'opinion se pose. Je m'en vais poser ces questions à l'honorable Mishiki. Est-ce que le régime en place a des priorités, des urgences? Deuxième question, est-ce que le régime en place réfléchit souffrance du peuple congolais et plus particulièrement la situation sécuritaire à l'Est, parce qu'on ne peut pas parler du développement quand il n'y a pas de paix. Troisième question, est-ce que le gouvernement en place ou le régime en place n'aurait pas sacrifié l'Est et serait en train de jouer la carte de la balkanisation de ce pays? Parce qu'on ne comprend pas sincèrement qu'au lieu de réfléchir sur l'essentiel, sur les problèmes de la population, on veut déstabiliser encore les institutions et au même moment on connaît que le pays connaît déjà beaucoup de problèmes. Au moment où ils ne s'entendent plus et même au sein de leur fameuse union sacrée, pour qu'ils réfléchissent situation du pays, pour qu'ils réfléchissent problèmes de la population, comment ils vont nous servir, c'est déjà un problème très sérieux. Je l'ai suivi dire que non, on ne doit pas mêler le chef de l'État dans ce qui se passe au niveau du Parlement. Moi, je pense qu'apparemment, Willy Mishiki aussi n'a pas compris ce qu'il a dit. Parce qu'on connaît que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Je ne sais pas s'il met déjà fin ou s'il s'oppose à cette thèse. Nous avons tous suivi Kabuya. Il a dit non. Avant que les députés de l'IDPS, parce que c'est l'IDPS qui est derrière tout ce qu'on est en train de suivre, les députés motionnaires ou pétitionnaires sont de l'IDPS, et on a suivi les propos de Kabuya qui a dit qu'avant qu'ils prennent position, il doit d'abord se référer ou il doit d'abord contacter le chef de l'État. Apparemment, Willy Mishiki est en contradiction avec Kabuya, et c'est déjà un danger pour la République. Nous pensons que le peuple a tant souffert. Mais le peuple est abandonné à son triste sort de par le gouvernement et par ses représentants.
Merci, Amos.
Ils ont dit que non, ils ont initié des pétitions, oui, je suis en train de citer, que parce que ils revendiquent un bon traitement. Est-ce qu'ils savent la situation que traversent les électeurs aujourd'hui? C'est catastrophique.
Voilà.
Dans tous les domaines.
Il va vous répondre.
Oui, mais comme c'est eux qui sont en difficulté, et c'est là que la population doit ouvrir les yeux. Prochainement, on doit sanctionner tous ces gens, parce qu'on a compris que ce sont des gens qui ne servent pas la population, mais ce sont des gens qui respectent les mots d'ordre de leur parti politique et de leur organisation politique au détriment de la population qui souffre.
Merci. Nous quittons Bukavu pour Kinshasa avec Junior Bompongo. Junior Bompongo, qui est chercheur indépendant en gouvernance et mécanisme de sortie de crise en contexte des conflits armés, spécialiste des enjeux de légitimité et de participation dans les accords de paix. Junior Bompongo, vous avez la parole.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et aussi salut à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de partager un peu ce que nous pensons. Cher journaliste, il n'est secret pour personne que la rentrée parlementaire de ce 15 septembre n'est pas simplement budgétaire. Parce qu'elle est pour moi, je suis en train de considérer comme étant un test de résilience pour l'État congolais. La question que je m'en vais à poser d'abord à notre invité, l'honorable Willy Mishiki, que je salue en passant, est-ce que l'État congolais saura-t-il de se réinventer et en redonnant du sens à l'action publique, où se déliter sous le poids de ses contradictions internes et des pressions externes. Quand je suis en train de dire les pressions internes, je suis en train de voir la guerre interinstitutionnelle qui est en train de s'installer à petit feu, mais aussi sur la crise de l'Est. La crise de l'Est a une dimension endogène, mais aussi exogène. Vous allez voir que l'accord de Washington a été signé par le gouvernement, entre donc le gouvernement congolais avec le Rwanda. Et on dit bien que les traités de paix et de sécurité doivent avoir au moins la ratification. Je me demande, ne serait-ce pas l'urgence pour ce Parlement qui rentre aujourd'hui, qui retrouve l'hémicycle, de se pencher sur le toilettage de l'accord qui a été signé, plutôt que de nous plonger sur des pétitions. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, j'étais étonné de voir la plupart des députés, au lieu d'être dans leur lieu de circonscription électorale pendant les vacances parlementaires, ils se sont donné le goût de rester à Kinshasa, récolter des signatures qu'on peut qualifier, des monnayages des signatures. Tout ça pour faire tomber un individu. Le problème aujourd'hui n'est pas des individus. Nous avons un problème de système. Donc, nous devons d'abord refonder les systèmes politiques.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, on peut faire partir Caméré, ainsi de suite. On n'aura pas résolu les problèmes. Attaquons-nous aux causes profondes. La population souffre, n'a pas de soins de qualité. Les enseignants qui réclament toujours leur prise en charge. Il y a les infirmiers, tout ça. Essayer un peu de résoudre le problème à la base. Parce que je suis en train de voir que à ce jour, la sécurité reste le pin dans la chair de l'État.
Merci.
Et les députés doivent vraiment... Merci, je suis content. Il est vraiment grand temps, au lieu de se disputer sur qui peut être président du bureau, moi je pense que l'urgence est d'abord de résoudre les problèmes structurels qui rongent notre État, alors qu'on va actionner d'autres moyens, peut-être après. Merci.
Merci. Nous quittons Kinshasa pour Lubumbashi dans les Haut-Katanga avec Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, bonjour. Voilà, apparemment nous l'avons perdu. Il y a aussi un autre auditeur qui nous a écrit ici, Kasongo Oanji Bonheur, qui depuis Kinshasa, il dit la rentrée parlementaire du 15 septembre 2025 s'ouvre dans un climat de tension entre pétitions internes et urgences nationales. Le budget 2026, bien qu'essentiel, n'est qu'un reflet. Derrière les chiffres, c'est le destin du peuple qui se joue. La guerre à l'Est incarne les minotaures du chaos, exigeant un sursaut de souveraineté. Le banditisme urbain symbolise la perte des liens civiques où la cité devient jungle. Les revendications des enseignants, médecins, infirmiers sont les cris des oracles. Ils portent la mémoire, les soins et l'avenir. La mobilité urbaine entravée par des embouteillages sans fin révèle une ville malade en quête de respiration. Sur le plan satoriologique, cette session est une épreuve de salut. Le Parlement doit redevenir sanctuaire. Nos théâtres. Les élus sont appelés à incarner la conscience nationale, à transformer les doléances en décisions justes. Les pétitions traduisent une crise de légitimité en une quête de purification institutionnelle. Cette rentrée n'est pas seulement politique, elle est mythique. Elle oppose inertie et renaissance. Le peuple attend des héros, pas des gestionnaires. La République espère une parole qui sauve. Honorable Willy Mchiki, vous allez réagir à toutes ces préoccupations. Vous avez la parole.
Je salue les interventions de différents auditeurs. Je voudrais d'abord dire ici que les soucis du Parlement a toujours été d'abord la sécurité, puisque nous-mêmes, nous avons des collègues élus qui ne savent plus aujourd'hui retourner dans leurs circonscriptions respectives, notamment le président de l'Assemblée nationale lui-même, le bureau, Vital Kamerhe, il ne peut pas aller en vacances parlementaires chez lui à Bukavu, où il est élu. Donc c'est pour dire que c'est un problème important qui nous tient à cœur, et que les gens doivent comprendre que les députés n'a qu'un moyen de contrôle. Nous ne faisons que des recommandations. Mais au finish, c'est l'exécutif qui doit mettre en musique, en marche, ces recommandations-là et résolutions du Parlement. Ça, c'est un. De deux, en ce qui concerne l'intervention de Junior Bompongo, il faut comprendre que la démarche des députés comme des sénateurs ne peut pas être résumée à une revendication sociale comme si on revendique. Non, il y a au-delà de ça, c'est vrai qu'un député comme un sénateur exerce des fonctions de prestige, des fonctions de dignité, et la Constitution elle-même lui reconnaît un certain trait de vie pour le mettre au-dessus justement des sollicitations, comme on a constaté. C'est quand même humiliant de voir vos élus du peuple que vous avez envoyés à l'hémicycle, que mander, marcher à pied, être exposé à l'insécurité, mener une vie d'échec, si je dois le dire. Donc, ce sont des problèmes, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui de revendication des collègues pétitionnaires, c'est là même fait et entre dans leurs obligations constitutionnelles. Parce qu'un député, lorsque vous ne lui donnez pas les moyens de pouvoir faire les contrôles parlementaires, de pouvoir légiférer, de pouvoir élaborer les budgets, parce que ce sont les trois missions qui nous reviennent constitutionnellement, mais il est gêné. Et là, c'est le bureau. On doit s'attaquer au bureau, ce n'est pas à l'exécutif, ce n'est pas au chef de l'État. Et je voudrais ici préciser les propos de collègues Kabouya Augustin qui ont été très mal interprétés. N'oublions pas que l'autorité morale de l'UDPF, c'est le chef de l'État. Il est le président de la République, d'accord, mais il est aussi le patron du parti UDPF. Avant son accession à la magistrature suprême, c'était lui le président de l'UDPF. Donc, c'est tout à fait normal que les collègues Kabouya, secrétaire général du parti, président Haï, puisse se référer au niveau du parti à son autorité morale, pas comme chef de l'État, garant de fonctionnement, de bon fonctionnement des institutions, mais comme président de l'UDPS, mais qui est aujourd'hui mis en congé pour des charges gouvernementales,
voilà,
qu'il assume au sommet de l'État.
Le même Amos Bissi, moi, vous a posé une série de questions.
La crise de l'Est, c'est notre priorité de priorité. Mais pour que la crise de l'Est soit résolue aujourd'hui, nous avons besoin d'un budget. Nous avons besoin de moyens. Et pour que le budget soit un budget réaliste, nous devons contrôler l'exécutif. Parce qu'il ne faut pas seulement voter les budgets. Quand vous regardez tous les budgets votés précédemment, ce sont des gros chiffres. Aujourd'hui, nous entendons en 2026 un budget qui va avoisiner 20 milliards de dollars. Et là, nous saluons même l'entrée aux affaires du VPM Mouzito qui vient d'innover la préparation du budget. Mais ces 20 milliards de dollars, ils ne sont pas gérés d'une manière efficiente. S'ils ne sont pas affectés aux besoins prioritaires des Congolais, notamment l'amélioration du social, le renforcement de la sécurité des Congolais et Congolaises, la lutte contre l'agression, mais ce budget-là ne sert à rien. Si ce budget-là va se terminer acheter dans les poches des colonnes à cravate, ça ne sert à rien. C'est pourquoi les députés comme les sénateurs ont besoin de leur liberté, de pouvoir, c'est tout ce qu'ils demandent au bureau, de les laisser exercer leur mandat parlementaire. Et nous pensons qu'après les consultations que les collègues Vital Kamerhe et son bureau ont entamées avec les différents co-onctistes et représentants les 26 provinces de notre pays, aussi que Moutatis Moutandis pour le Sénat, nous pensons que la tempête aujourd'hui est passée et que nous allons nous allons leur donner une seconde chance, mais l'épée de Damoclès est toujours suspendue, puisque une pétition signée peut être déposée à tout moment, et conformément au règlement intérieur, lorsqu'il est déposé dans les 48 heures, 72 heures, elle doit être soumise au débat. Et les conséquences seront tirées.
Voilà, donc on a l'impression d'avoir en face de nous un député qui s'est plaint et qui dit à la population que si le député n'arrive pas à faire le travail comme il se doit, le travail des contrôles, des sanctions, c'est parce que les bureaux constituent une pesanteur. C'est ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas, honorable
William Chi? Oui, j'ai eu comme impression, quand j'ai lu certains intervenants, ils donnent l'impression que les députés est devenu un syndicaliste de ses intérêts. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a prévu, la Constitution a prévu qu'un député doit avoir soin, par exemple, aux soins médicaux, comme à tout citoyen congolais. Lorsque moi-même député, je n'ai pas droit aux soins médicaux. Lorsque moi-même député, je n'ai même pas droit à la mobilité, à un logement décent. Comment pourrais-je défendre pour que mes électeurs puissent l'avoir?
Et c'est là que Franck de Vienne vous demande, n'est-ce pas?
La démarche de pétitionnaire en termes de revendications sociales, là vraiment, les auditeurs, j'ai dit, ils ont tapé à côté.
C'est là que Franck de Vienne vous demande, lorsque vous revendiquez vos droits à vous, vous parlementaires, pensez aussi, n'est-ce pas, aux droits de la population qui vous a envoyé là-bas. Voilà, Amos Bissimo Adebouka vous a posé une série de questions. Est-ce que le gouvernement actuel a des priorités et des urgences? Est-ce que ce gouvernement réfléchit souffrance du peuple? Et puis il dit qu'on a l'impression que le gouvernement aurait, n'est-ce pas, sacrifié l'Est du pays, et aurait même, serait en train de jouer la carte de la balkanisation du pays.
Non, je voudrais ici rassurer Amos, qui est dans les territoires occupés, que le gouvernement de la République se soucie de nos sœurs et frères qui sont aujourd'hui dans cet espace-là occupé illégalement. Et que toutes les démarches sont entreprises, et nous avons même dénoncé, même aujourd'hui encore une fois de plus, les Kenyans. Je me rappelle même, j'ai fait partie des députés qui avait demandé des sanctions contre les Kenyans. Et regardez aujourd'hui, au moment où nous parlons, les Kenyans viennent d'ouvrir une banque à Goma et à Bukavu. Les Western Union, les RIA ont repris en violation de la réglementation de la Banque centrale. Mais notre gouvernement ne fait rien pour sanctionner les Kenyans, qui a même osé désigner un conseil général pour confirmer la balkanisation. Ça, c'est nous les députés, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne faisons que des recommandations. Et malheureusement, c'est notre gouvernement à nous. Et lorsque nous sanctionnons le gouvernement, on nous dit que nous voulons faire les raquettages, nous voulons régler les comptes politiques. Mais je voudrais rassurer M. Bissi, moi, qu'il peut compter sur ses élus et que le travail sera fait. Et si le gouvernement continue à passer outre les recommandations du Parlement, nous serons obligés malheureusement de les sanctionner conformément à la Constitution.
Merci. Au nom des condensés plutôt des réactions, les réactions des auditeurs à la rentrée parlementaire du 15 septembre 2025 en RDC couvrent un large spectre d'opinions entre attentes, critiques et constats nuancés. Les positions favorables à la session parlementaire, les auteurs favorables insistent sur la nécessité que les parlements prennent ses responsabilités en traitant efficacement les budgets, la sécurité à l'Est et les revendications sociales. Ils espèrent une session qui, malgré les tensions, puisse amorcer un changement réel avec un contrôle renforcé sur l'action gouvernementale et une meilleure prise en compte des besoins des citoyens. Alors, parmi ceux qui soutiennent cette thèse, il y a Kasongo Oanji Bonheur, il y a les pasteur Jérémy Mwanda, il y a Baraka Godefroy, Modeste Biembe, François Okunji Lange, Junior Bompongo, Christian Kassese, Germain Kanane Joyeux, Dunia Muhigiroa, Justin Unyangu, Ezekiel Pendakazi et Anatole Mouécheroua. Alors, les positions défavorables, les critiques dénoncent une session budgétaire irréaliste, une institution parlementaire souvent inactive, voire captive d'intérêts personnels et politiques face à l'insécurité, au grave et à la mauvaise gestion. Ils soulignent l'incapacité des élus à répondre aux urgences du pays et mettent en cause le leadership politique dans la prolongation d'une crise durable. Parmi ceux qui soutiennent cette thèse, Kibula Kianyanya, Chrysostome Lebakwa, Georges Kilangalanga, Léon Bati, Christian Bangendabaga, Médard, Justin Kalabia, Blaise Saïdi Atubu, Yves Laurent Mwanda, Fiston Mutombo, John Numbi Omande, Toumaini Adrien, Bangedambanga, Christian, ça c'est la deuxième fois, et Kujira Nyamegabe Divin, Steve Baogwere, Germain Sidi, Alidor Mulumba, Ezekiel Pendakazi. Les réactions neutres ou mitigées, les réactions neutres posent un regard analytique, reconnaissant les défis énormes que rencontrent les parlements congolais. Elles insistent sur la nécessité d'aligner les priorités législatives aux conditions sécuritaires et sociales nationales, mettant en garde contre les risques de voir la session se limiter à des formalités sans impact concret. Les personnes qui soutiennent cela, c'est Kibula Kinyanya, Pasteur Jérémy Dunia Mouhigiroa, Germain Kanane Joyeux, Christian Kassessé, Modeste Biembe, Junior Bopongo. En conclusion, la rentrée parlementaire de septembre 2025 sera-t-elle l'occasion d'un véritable sursaut politique capable d'assurer la sécurité, la justice sociale et la bonne gouvernance, ou ne restera-t-elle qu'une formalité sans conséquences pour les peuples congolais? Honorable Willy Michiki.
Oui, je voudrais d'abord assurer ici, en tant qu'élu du peuple, membre cofondateur de l'Union Sacrée, qui est la famille politique qui a la majorité dans ces deux institutions parlementaires, pour dire que nous sommes très très préoccupés par la situation sociale de nos concitoyens, mais aussi par les défis sécuritaires auxquels nous devons faire face. Nous croyons fermement à la vision du chef de l'État qui privilégie la diplomatie conformément aux différentes résolutions de l'ONU, de l'Union africaine, SADC, East African Community, puisque nous croyons que les conflits congolais doivent être réglés pacifiquement et non par les armes.
À quand, parce que vous évoquez cela, honorable Willy Michiki, à quand la ratification de l'accord de paix qui a été signé à Washington le 27 juin entre la RDC et le Rwanda?
Justement, nous avons prévu parmi les matières à examiner la ratification de l'accord de paix de Washington. Mais cet accord aujourd'hui pose problème. Mais lorsqu'au moment où je vous parle maintenant là, ce matin ici, quand vous allez, il y a eu l'AFC M23 qui a envahi Kishosha près de Masisi. Et ils sont en train de menacer la cité stratégique de Pinga. Aujourd'hui, ils sont à moins de 15 kilomètres de Pinga, avec l'objectif, à partir de Pinga, d'accéder à la province de la Tchopo par Bafassende et prendre la mine de Bissier pour prendre les Maniema et accéder à Kisangani. Donc, la mauvaise foi, et là, ce ne sont pas les rebelles de AFC M23, c'est les troupes rwandaises, alors que ces mêmes troupes-là qui ont signé cet accord de paix sont encore aujourd'hui actives sur notre territoire national. Alors, ça nous pose le problème des ratifications d'un accord qui, en réalité, est un bluff. Lorsqu'on nous parle dans cet accord aujourd'hui qu'on doit neutraliser les forces négatives, les FDLR, comment le gouvernement de la République peut-il aujourd'hui aller faire des opérations militaires dans les espaces occupés par l'AFC M23 et leurs parrains rwandais, alors que 92% de restants de résidus de FDLR, qui ne représentent même pas 1000 combattants, sont dans ces territoires-là. Donc c'est un accord pour nous qui, en réalité, ne reflète pas la réalité sur le terrain. Comment nous pouvons ratifier cet accord-là qui parle même de l'intégration économique, alors qu'au moment où nous parlons, il y a certaines entreprises américaines qui viennent de signer des contrats avec des sociétés fictives minières rwandaises pour justement recycler le minerai qui vient de Rubaya, et notamment les coltans de Rubaya, les pyrochlores de Rutshuru, l'or des Twangiza qui sont en train d'exploiter. C'est pourquoi nous, en tant qu'élus du peuple, Nous croyons que nous ne devons pas nous précipiter dans la ratification de cet accord qui, en réalité, est un bluff, c'est de la poudre aux yeux. Nous devons faire comprendre aujourd'hui aux facilitateurs américains qu'on ne sent pas vraiment son implication, comme aussi pour qu'ils puissent imposer, puisque on ne peut pas aujourd'hui ratifier en principe cet accord avant le retrait effectif des troupes rwandaises en RDC. Cette histoire-là, bidon de mesures défensives, ne se justifie pas. C'est ça justement.
Honorable.
La base sur nos ressources. Et aussi longtemps que l'armée rwandaise ne se sera pas retirée du territoire congolais, on ne peut pas parler d'un véritable accord.
Merci. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Honorable, comme vous l'avez suivi, il y a scepticisme et espoir. Les gens ont beaucoup d'attentes, n'est-ce pas, par rapport à cette session de septembre 2025. Un mot à l'endroit de la population, ça sera aussi votre conclusion.
Oui, je voudrais rassurer mes compatriotes congolais que vous pouvez compter sur votre parlement à cette rentrée parlementaire du mois de septembre, qui est vraiment une rentrée spéciale compte tenu de toutes les tractations qui se font au niveau international, notamment la recherche d'une paix effective et durable par les chefs de l'État. Je voudrais ici rassurer d'abord la confiance et le soutien, la loyauté que nous avons à l'égard du chef de l'État dans sa vision pour amener une paix définitive. Et je voudrais appeler les uns et les autres à l'unité nationale, puisqu'il n'y a pas une force aussi importante, capable de changer les choses comme la population.
Merci.
Et lorsque la population est manipulée, lorsque nous sommes divisés en interne, cela nous affaiblit. Lorsque nous regardons même les massacres qui se font aujourd'hui, que ce soit en Ituri, que ce soit à Lubero, à Beni, par ADF, ce sont des Congolais qu'on utilise malheureusement par des politiciens congolais. C'est comme ça que j'en appelle aux Congolais et Congolaises à la vigilance. Lorsque les Congolais prendront conscience qu'on ne peut pas pactiser avec les diables,
merci,
que lorsque les Congolais et Congolaises qui sont dans les territoires occupés aujourd'hui se révolteraient, ce sera la fin,
merci,
de l'agression.
Merci.
Et vous aurez rendu un service inoubliable à la nation congolaise.
Merci.
Et vos élus seront très fiers de vous.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité, Willy Mishiki Bouyini, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Debs Vita qui était la technique et à Billy Landry Betou qui a assuré, n'est-ce pas, les lives de cette émission, et Julie Feza Bongonda qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bon soutien de programme sur Radio Capi.